France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Jean-Jacques Antonov, donc je suis né à Cannes en 1945 et je suis musicien, c'est-à-dire j'ai été violoniste, je continue un petit peu et je suis chef d'orchestre.
Aujourd'hui, dernier volet de nos entretiens avec Jean-Jacques Cantoroff, l'occasion de revenir sur son expérience de musique de chambre, mais aussi sa vocation de chef d'orchestre.
Le quatuor, ça a toujours été un rêve. Mais le quatuor, c'est une vie en soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager avec beaucoup d'autres choses. Et autant j'étais prêt à faire du quatuor, on avait même projeté d'enregistrer tous les quatuors de Beethoven en s'enfermant dans un château pendant un été avec Marie Fujiwara, avec Vladimir Mendelssohn. Et donc, voilà, on n'avait pas encore choisi le second violon pour ça. Mais ça faisait partie de nos projets, nos envies, nos rêves. Mais le trio à cordes, c'est un quatuor avec trois. En fait, c'est la même composition. En fait, il y a une partie qui est répartie.
Oui, la partie du violon 2.
De violon 2 ou d'alto. Enfin, donc c'est un mélange. Chacun prend un peu plus du matériau. C'est assez difficile. Le répertoire est très beau. Il est très limité. Mais il y a des œuvres magiques, donc que, pas simplement, bien sûr, on connaît les Beethoven, j'ai quasiment enregistré tout le répertoire, mais enfin, d'Ornani, Schnittke, il y a des choses sublimes qui sont qu'on connaît moins et qui sont de très très belles. Il y a les Behrens, par exemple, qu'on connaît pas du tout. Behrens, c'est Hermann Behrens, c'est un compositeur qui a vécu en Suède, mais qui était allemand, qui a fait des trios, ça ressemble à du Brahms, ça ressemble de, donc c'est un peu entre Brahms et Schumann. Et il y a plein de choses à découvrir. C'est beau et il y a ce mélange effectivement d'une couleur, on ne joue pas de la même façon. Il n'y a pas le piano pour retrouver en quelque sorte une justesse qui est fausse, puisque ça ne peut pas être juste, c'est tempéré. Alors que avec le trio, on peut tirer ça vers des émotions plus raffinées, parce qu'il y a des couleurs qu'on peut donner, qu'on ne peut pas donner quand il y a la présence du piano.
Alors, quand est-ce que tout d'un coup vous vous dites je vais prendre la baguette, Jean-Jacques Cantoroff, cette vie-là, devenir chef
Bon, alors ça m'a taquiné depuis longtemps, parce que vraiment j'ai réfléchi à la musique et.
Vous avez quoi, 35, 40 ans? C'est le début des années 80,
oui,
fin des années 70
Oui, c'est des début des années 80. Donc, j'avais fait quelques concerts sans chef, donc, mais là, en tant que violoniste, c'est-à-dire, bon, j'étais un peu leader.
Vous allez travailler la direction d'orchestre
non,
ou pas du tout?
Pas du tout.
Donc ça, c'est purement empirique.
C'est
vous
purement
êtes
empirique.
Fait voilà. Sur le tas.
Et il s'est trouvé qu'un jour, j'ai remplacé Bruggen.
Franz Bruggen de l'orchestre de chambre néerlandais.
Avec le Netherlands Camera Orchestra. Donc, j'étais violon solo. À l'époque, parce que j'ai eu une période où j'étais violon solo. J'étais violon solo de l'Orchestre de Paris pendant un an.
Mais oui,
après,
c'est ça.
J'ai été violon solo de Netherlands Camera Orchestra pendant 6 ans. Ça, c'était pour gagner ma croûte. Hein, donc, Puis, ça m'intéressait parce que je m'intéressais quand même à ce répertoire que je n'avais pas vécu. Donc, vivre de l'intérieur, c'est autre chose. Ça m'a formé énormément. Et puis, surtout parce que c'était confronté à des chefs qui avaient des idées très précises. Donc, en fait, ça ouvre des horizons. Il se trouve que Bruggen tombe malade après la première répétition. Et l'orchestre me dit, écoute, tu ne peux pas prendre la direction. Et là, quelque part, je me suis aperçu en très peu de temps de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, heureusement, l'orchestre jouait tout seul, ça m'allait très bien. Donc, on a fait la série. Mais ça m'a ouvert les horizons sur un peu ce qu'était le métier de chef d'orchestre. Parce que là, j'étais obligé de battre à la mesure.
Vous vous êtes senti comment ? Est-ce qu'il y avait, parce que c'est pas rien, hein, je veux dire, d'avoir un orchestre qui vous répond, c'est un sacré instrument.
Je me suis trouvé emprunté parce que, bon, physiquement, donc il faut s'habituer. Bon, battre une mesure, c'est pas difficile. J'ai essayé de donner les départs, et je me suis retrouvé surtout devant des musiciens qui attendaient de moi toutes les informations. Alors que c'était des collègues, on faisait de la musique de chambre ensemble, on se connaissait, donc j'attendais qu'ils m'apportent le secours. Non, ils étaient là, la bouche ouverte, en disant « mais qu'est-ce que tu veux ?» Donc je me suis rendu compte de ce qu'était finalement le travail d'un chef, très très formateur. Et il se trouve que lorsque j'ai enregistré avec Krivin, nous étions donc en Hollande, on enregistrait le concerto de Schumann et les œuvres de Schubert pour violon et orchestre.
Un violoniste devenu chef aussi.
Absolument. Krivin a toujours été fasciné par la direction. Je me souviens donc avec Scholti, on avait joué le double bac avec Scholti et avec lui. Et Scholti faisait le Sacre du Printemps, il était en coulisses, il respirait chaque note, chaque respiration de Scholti, il vivait la chose. Donc c'était vraiment sa chose. Donc, il se trouve que lui, il avait l'oreille un peu du ministère, parce que bon, c'est quand même un grand chef français. Et il me dit
« Jean-Jacques, la direction, ça t'intéresse ?»
Alors, je lui dis « Mais pourquoi tu me poses ça comme question, Madou ?»
J'ai reçu un coup de téléphone du ministère. Là, il y a deux orchestres qui cherchent un chef. Alors, il y a l'orchestre de Grenoble à nouveau, et puis il y a l'orchestre d'Auvergne. Et j'ai besoin d'une réponse demain.
Et c'est comme ça que c'est parti.
Auvergne, donc, pas Grenoble, mais Auvergne.
Alors, j'ai choisi Auvergne, oui, parce que j'avais fait avec eux une série sans chef, puis j'avais trouvé la bande super sympa, ça s'était très bien passé, on avait fait 4 saisons, on était partis avant. Et donc, je me suis dit, ben oui, j'ai envie. Puis,
donc, un orchestre de chambre.
Un orchestre de chambre, j'ai découvert l'Auvergne, en plus, j'ai trouvé que c'était superbe comme région. Je m'y sentais bien, donc voilà, je me suis dit, Auvergne, pourquoi pas. Et j'ai dit, top là, alors que je ne savais pas du tout diriger.
Vous allez donc changer de vie, Jean-Jacques Cantorov, parce que vous quittez la Hollande pour vous retrouver en Auvergne.
J'ai un peu pratiqué les deux pendant un temps, parce que j'ai continué en Hollande pour l'enseignement. Donc j'ai quitté effectivement mon emploi de vie en solo pour devenir chef, mais je continuais donc à la fois ma carrière de soliste, l'enseignement. Il y avait Bâle également, donc j'enseignais à Bâle à l'époque et j'enseignais.
Quel professeur vous êtes, vous ?
Ah, une question. Alors, je dirais que je ne suis pas un formateur. Dans le sens, le formatage, c'est quelque part la fin d'une identité, c'est la fin d'une liberté. Avoir une formation, c'est-à-dire apprendre par quelle méthode on peut en passer pour arriver à enseigner un instrument, je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'on dise, bon, ben voilà, a priori, à tel niveau, il vaut mieux commencer par tel cycle d'études. Bon, ben ça a toujours existé. Même la tradition se transmet de bouche à oreille. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'un cours pour dire, de façon didactique, c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est faux. Mais le travail, que n'ont pas compris d'ailleurs, en général les gens dans les ministères, qui sont derrière des bureaux, c'est un travail purement de terrain. C'est-à-dire que c'est psychologique, c'est physique, c'est tous les moyens sont bons. Mais ce qu'il faut, c'est faire prendre conscience à un élève de son pouvoir, de ses talents, de ce qu'il peut mettre en valeur, de son bonheur surtout. Et de savoir ce qu'il va devenir dans la vie, ça fait partie aussi de l'enseignement. C'est-à-dire que savoir l'orienter en lui disant ce qu'il faut faire à différentes étapes de sa vie. Donc, c'est important que le professeur soit un précepteur, beaucoup plus qu'un enseignant spécialisé.
Alors, vous allez passer évidemment un temps certain avec cet orchestre d'Auvergne, hein, 84-93.
Oui.
Et puis, d'autres orchestres vont suivre. L'ensemble orchestral de Paris, qu'on connaît aujourd'hui comme orchestre de chambre de Paris oui. Hein, de 94 à 98. L'orchestre d'Orléans, l'orchestre de Douai, et puis l'orchestre Tapiola.
Tapiola pendant 13 ans.
Voilà, pendant 13 ans. Là, on voyage en Finlande.
En Finlande, j'avais deux orchestres en Finlande. J'avais l'orchestre de chambre d'Helsinki et le Tapiola.
Qu'est-ce que toutes ces différentes formations vous apportent? Et est-ce que c'est parce que ça vous épanouit complètement en tant que musicien que vous allez lâcher le violon?
Alors non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. J'ai découvert un répertoire extraordinaire. Donc d'abord, j'ai appris mon métier avec donc mes collègues d'Auvergne qui ont été suffisamment gentils pour être patients. Et puis j'ai voulu aller plus loin parce qu'en Auvergne, bon, j'avais voulu faire de l'orchestre d'Auvergne un orchestre mozartien. Ce qui a débouché sur Idoménée d'ailleurs à l'opéra donc à Paris, donc à l'opéra comique. Ça permettait d'accroître un petit peu l'orchestre. J'avais obtenu l'assentiment pour 24 cordes et je voulais évidemment étoffer qu'on en fasse un orchestre Mozart. Bon, là, bien sûr, un chou est un chou. Donc, ça n'était pas très très facile d'obtenir plus de subsides. Et il y avait même une volonté de réduction. C'était la période où le gouvernement donc s'est désengagé. Nous avions quand même 50% de budget qui venait de l'État. Or, ils voulaient que ce soit des sponsors. La France n'était pas formée au la sponsorisation. Donc, en fait, c'était très difficile d'obtenir ça. Nous avions des recettes propres par notre public et par nos tournées. Nos tournées nous généraient de l'argent, ce qui était exceptionnel. Le disque nous générait de l'argent. Donc, on avait un budget qui était très sain. Ça permettait d'avoir quelques supplémentaires, mais pas de les avoir en permanence. Et moi, je rêvais quand même d'un répertoire qui allait en s'enrichissant.
Donc vous avez l'orchestral, bougé.
Oui. On m'a offert l'orchestral parce que la succession, mon travail en Auvergne avait tellement bien porté ses fruits, c'était un modèle du genre. Donc on s'est dit, l'orchestral avait été dans une période difficile, quand Armin Jordan est parti. Oui. Sur le plan financier, les pouvoirs publics se demandaient s'ils allaient le garder, donc c'était vacillant. Donc on m'a offert en quelque sorte la position, on a dû leur dire, écoutez, hein, si vous voulez être sauvés, vous prenez Kantorov. Donc ils m'ont pris, mais c'était une bande de vieux copains, donc quelque part, ils m'ont demandé quels étaient mes projets, mais j'ai été nommé sans faire un seul concert avec eux.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Jacques Kantorov.
Je vous posais la question du violon, vous m'avez dit ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir parce que...
Quand est-ce que vous l'arrêtez cette pause de 5 ans?
La prise de conscience s'est faite un jour où j'étais au Japon. Le concours Thibault m'avait demandé deux fois, ils m'ont demandé de participer au concert de gala à Tokyo. La première fois, j'avais joué Symphonie espagnole de Lalo. Et puis la seconde fois, c'était concerto de Beethoven, deux ans après, avec la gagnante. Et je me suis retrouvé à Tokyo, dans cette chambre d'hôtel du Suntory Hall, enfin juste à côté, en me disant, mais pourquoi je fais ça? J'étais parti de Paris, avion, répétition le lendemain matin, concert, donc, enfin, il y avait quand même deux répétitions, concert le lendemain à nouveau, le soir, je reprenais l'avion dans la foulée, et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? En plus, concerto de Beethoven, c'est un concerto que j'ai beaucoup joué. une centaine de fois quand même, c'est quand même beaucoup malgré tout. Je l'ai joué, j'ai même une année, quand je l'ai enregistré, j'ai dû le faire 40 et quelques fois la même année. Je l'ai vécu, c'est autant j'adore le concert de Beethoven et j'adore être sur scène avec le concert de Beethoven. Le travailler, j'étais là, dans ma chambre d'hôtel, en me disant, mais qu'est-ce que tu fous là? Alors je me suis posé la question, est-ce que tu as envie de jouer Beethoven? Non. Je serai heureux quand je serai sur scène, mais j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de travailler, de refréquenter le concerto de Beethoven. Est-ce que tu as besoin d'argent? À l'époque, j'en avais pas besoin. Mais dis non. Est-ce que tu as une envie de carrière? La carrière est derrière moi déjà. De toute façon, je vois pas ce que je vais pouvoir faire d'une plus grande notoriété. Je cours pas après ça. Et je me suis dit, bon, c'est ridicule. Donc je suis rentré à Paris. J'ai écouté les bandes et j'ai une écoute aujourd'hui beaucoup plus intransigeante qu'auparavant, donc j'ai pas écouté un concert, j'ai écouté comme si c'était un enregistrement. Et je trouvais des choses qui me plaisaient pas. Mais j'avais pas de quoi monter, là, donc. Et je me suis dit, mais, bon, est-ce que vraiment, je décline pas? Il y avait ce sentiment de pas très bien. Et j'ai téléphoné à mon impresario, j'ai dit, bon, ben, ça allait, c'est terminé. Enfin, mes impresarios, parce qu'il y en avait dans plusieurs pays. J'ai dit, je ne joue plus avec orchestre, c'est terminé, je continuerai à faire un peu de récital, de musique de chambre, mais voilà. Déjà, j'ai mis une première barre d'arrêt. Et puis, il s'est trouvé aussi que j'avais plus envie de fréquenter ces festivals de musique de chambre où, bon, on apprend à jouer avec d'autres sans arrêt. C'est fascinant quand on est jeune, on a besoin de cet échange. Mais il y a un moment où, en ayant roulé sa bosse, on a quelques idées qu'on a envie de partager, mais on n'a pas envie de faire du ad hoc. Ça, c'était déjà, j'ai réduit, j'ai quasiment supprimé. Et puis, il s'est trouvé aussi que même dans les ensembles constitués, comme les trios, je me suis aperçu que, finalement, au bout de 30 et quelques ou 40 années, on avait pris des chemins différents. C'était plus du tout comme la première fois où on se retrouvait, et comme des voleurs, on montait un programme, on se faisait plaisir, et puis ben, voilà, il n'y avait plus la même malléabilité. Chacun avait pris un tout petit peu sa direction. C'était la même amitié, et c'était plus le même résultat. Donc j'ai décidé que là aussi, bon, donc voilà, arrêt du violon, pourquoi pas, parce que bon, j'en ai pas besoin, mais je me satisfais pleinement de la musique que je fais en la faisant faire aux autres.
L'arrêt du violon n'aura pas duré longtemps. Ici, Jean-Jacques Kantorov joue avec son fils Alexandre, âgé alors de 16 ans.
Et puis, y a Alexandre et mon épouse.
Parce que votre épouse, on en a pas parlé encore.
Mais non, mais elle était musicienne, elle faisait partie de l'orchestre d'Auvergne. C'était une violoniste tout à fait remarquable. Et j'ai des souvenirs, j'ai encore des bandes de concerts de musique de chambre, parce que je pratiquais ça aussi en Auvergne, où on joue ensemble, y compris du quatuor d'ailleurs. On a un très beau quatuor de Debussy qu'on avait fait ensemble, et puis des quintettes. Et, donc voilà, quand Alexandre est né, j'étais encore tellement dans ma valise, et elle souhaitait, bon, c'était ce qu'elle souhaitait le plus au monde, donc voilà, elle a voulu suivre Alexandre, et donc elle n'a plus joué de violon, elle s'est consacrée vraiment à Alexandre.
C'est quand même pas rien, c'est une forme de sacrifice.
Oui, c'est un sacrifice, je crois qu'elle l'a perçu aussi comme un sacrifice. C'était pas facile, elle n'a pas bien vécu, mais en même temps, elle avait cette volonté de profiter de chaque moment béni de la présence d'Alexandre, et elle l'a énormément aidé. Parce que finalement, alors, chaque soir, en quelque sorte, ou à la fin de chaque cours, Alexandre nous faisait un compte-rendu un petit peu de son cours en disant ce qu'il avait perçu. Alors, il faisait comme il jouait avant, comme il jouait après. Alors, on était assis sur le canapé, avec une grande salle aussi de 100 mètres carrés, avec le chien entre nous, parce que le chien, ce qui s'appelait Berlioz, participait à tout cela. Et on écoutait véritablement ce qu'a vécu, j'avais vécu notre fils pendant la journée, comment il avait perçu quelque chose, comment ça se transformait. Et ma femme l'a énormément aidé aussi parce que ses commentaires ont été toujours très, très porteurs, très pertinents, en le forçant à aller aussi plus loin dans certaines choses, notamment dans ce qu'on appelait le sans faute, mais parce que, bon, évidemment, il y avait l'envie de jouer, mais en disant, mais il y a quand même des choses à laquelle il faut tu te réfères, tu peux pas te permettre ça, ça. Au début, dans ses concerts, très souvent, il ratait la dernière note. Et boum, à côté. Et c'était presque, bon, c'était un syndrome, on s'amusait, parce que ça n'avait aucune espèce d'importance, mais bon, il peut pas se le permettre. Alors ça, il a fait attention. Mais, on commentait, sans aucun esprit de, c'était pas un travail d'enseignant, c'est pas un travail, c'était notre ressenti, on échangeait là-dessus. Et lui nous apportait sa fraîcheur et ses convictions. Et c'est, donc, en fait, on a vécu un moment, fabuleux d'épanouissement progressif. Et nous l'avons vécu aussi de façon merveilleuse, façon de voir les étapes qu'il franchissait. Je crois que là où on a été les meilleurs, c'est peut-être dans les conseils d'enseignants. On a pris les bonnes options au bon moment. Mais ma femme était pour énormément impliquée là-dedans parce qu'elle a perçu tout de suite le côté un petit peu différent d'Alexandre. Bon, c'est ce que j'aime pas le terme de surdoué, mais c'est un enfant précoce. Donc, ça présentait autant de facteurs, je dirais positifs, que de facteurs négatifs. Les enfants précoces sont très souvent rejetés, sont très souvent en échec scolaire, sont très souvent. Et ma femme a parfaitement perçu et pris les options qu'il fallait. Donc, elle s'est renseignée pour savoir comment, voilà, éviter les écueils. Et bon, voilà le résultat. On est content, à notre petite échelle, d'avoir aidé à s'épanouir.
C'est quand même pas rien quand en 2019 il est premier prix et médaille d'or au concours Tchaïkovski.
Oh, ça c'est oui, bon, c'est vrai qu'on a vécu ça à distance parce qu'on n'était pas à Moscou et de façon assez enthousiaste et fiévreuse, juste pas fiévreuse parce que il rêvait de jouer au conservatoire de Moscou et d'être sur cette scène qui avait été foulée par Horowitz et Richter et Gilels et autres. Donc pour lui ça c'était son plaisir et on le voit arriver sur scène. Au conservatoire de Moscou, la première épreuve, il s'assoit, et ça dure au moins 2 minutes. Il regarde la scène, il regarde le public, on le voit en train de boire l'atmosphère, en disant, ça y est, j'y suis. Et il commence à jouer, et même si la première épreuve était encore un tout petit peu, je dirais, il essayait de faire bien, c'est la joie de jouer. Et je dois dire que les épreuves après, il est complètement dans sa bulle, dans son monde. Enfin, il y a même cette photo extraordinaire où on le voit accroupi par terre entre les deux concertos en attendant que le chef descende. Et il a, on dirait Glenn Gould, il a une position complètement décontractée. Là, il est là, il se décontracte et puis hop, il se relève et il joue avec passion. Et ça, je pense que c'est ce qui se dégage de lui le plus et ce qui fait mon admiration parce qu'il a une connaissance musicale plus étendue que la mienne, hein, je dois dire. Malgré les années que j'ai passées, il boit la musique, il la lit, il la dévore, mais il n'y a pas que la musique, hein, c'est pour tout pareil. Et tout ça participe à ses interprétations. Donc on a une impression de quelqu'un qui baigne dans une culture et qui recrée le monde à chaque fois qu'il monte sur une scène. Donc je tire mon chapeau, je suis très impressionné.
Thank you.
Alexandre Kantorov dans une transcription de L'Oiseau de feu de Stravinsky pour refermer cette série de grands entretiens avec son père, Jean-Jacques Kantorov. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Yves Lehors, mixage Olivier Dupré, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.